Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'entends de derrière. On entend bien partout? Oui. On entend fort bien. Eh bien, donc moi je suis Martin Germaud. Je suis vraiment très content d'être ici. Je serai le modérateur de cette matinée. Donc mon métier, au fait, c'est d'accompagner des groupes, comme on va être un groupe ce matin, à essayer d'amener, au fait, le maximum de valeur pour chacun à chaque moment. C'est-à-dire de comment est-ce qu'on conçoit la rencontre. Donc on a passé pas mal de temps avec Frédéric, avec Vincent, à penser à cette matinée et à partir un peu de notre intention et de voir mais comment est-ce qu'on allait concevoir cette rencontre, en fait. Donc vous aurez observé que qu'on est ici dans cette salle, plutôt une salle un peu de spectacle. Tout le monde est assis en cercle. On ne va pas avoir de personnes sur l'estrade qui vont faire des grandes présentations. On va plutôt être dans un esprit de cercle, un peu d'équivalence, et d'entendre différents partages, différentes interventions. La volonté de la matinée, et c'est vraiment comme ça qu'on l'a pensé, c'est de pouvoir se connecter à une réalité de terrain. Beaucoup d'entre vous ici, au fait, sont des travailleurs, des travailleuses liées au secteur du handicap. Donc je rappelle que donc la question qui nous occupe ce matin, c'est vraiment la question du handicap dans le milieu ouvert en région wallonne. Et en fait, c'est l'occasion ce matin d'inviter les différents partis politiques présents en région wallonne pour partager un peu une réalité de terrain, différents regards, qui soient plutôt philosophiques, académiques, mais aussi vraiment on a la chance d'avoir des gens qui sont vraiment tous les jours, au fait, occupés sur ces sujets. Quand on a commencé à préparer cette journée, il y avait vraiment cette intention, donc, comme je le disais, de se connecter à la réalité de terrain. Et je pense que c'est vraiment une opportunité pour tous ici, là où souvent on entend des critiques par rapport à la question politique en disant « oui, mais c'est tellement déconnecté des réalités ». En fait, on peut prendre cette matinée ici aujourd'hui comme une occasion, une opportunité, une chance de s'informer, d'apprendre et vraiment de se connecter à ce terrain au maximum. Donc ça, c'est vraiment l'invitation et l'objectif là où on a envie d'arriver à la fin de la matinée. Si à la fin de la matinée, tout le monde repart d'ici en disant « j'ai appris des choses », et maintenant, je cible mieux, je comprends mieux certains éléments qui font partie du mémorandum dont on va parler. Alors là, on a tous gagné quelque part. Donc, comment va se dérouler cette matinée? On va avoir, on a six personnes, six intervenants ou six groupes d'intervenants qui vont partager sur différentes thématiques. On va d'abord en avoir trois, puis après en avoir une pause, et puis encore trois. Et puis, la matinée se finira vers midi et demi. Normalement, à midi et demi, on aura terminé. J'entendais déjà certains qui disaient « Ah oui, je suis désolé, je dois repartir plus tôt, tout ça. » Aucun souci, chacun ses agendas. Juste si vous partez en plein milieu d'un échange, essayez d'être discret pour garder une qualité d'écoute. C'est ça. On ne vous fera pas une haie d'honneur comme tous ceux qui sont arrivés là à la fin. Non, c'est un peu une blague, mais en même temps, ce qui est important dans ce genre de moment d'échange, on l'a conçu pour que ça reste assez dynamique et assez vivant. Et en même temps, ce qui va créer la valeur de cette rencontre pour tous, ça va être la qualité d'écoute. À quel point on est capable d'écouter quelqu'un, vraiment pas pour essayer de se dire « Ah, mais moi, avec ma casquette de un tel ou tel rôle ou telle chose, qu'est-ce que je vais bien pouvoir répondre à ça ?» Non, vraiment écouter pour essayer de comprendre, rentrer dans la réalité de la personne, et peut-être essayer d'avoir des questions de compréhension plus fine pour aider la personne et vraiment essayer de rentrer dans une compréhension beaucoup plus fine des sujets. Et de nouveau, si on arrive à faire ça tous ensemble ce matin, je pense qu'on est vraiment gagnant tous. On a la chance d'avoir Paul qui est là, qui va nous faire une illustration. Donc elle a cette qualité de pouvoir dire avec des dessins ce qu'on va essayer de dire avec des mots toute la matinée. Voilà. Et donc, on en aura un moment à la fin de la matinée pour regarder. Elle nous fera un petit retour au fait, de tout ce qu'elle a entendu. Elle est un peu comme moi, en fait. Ce n'est pas vraiment son sujet, la question du handicap. On est plutôt des externes, mais on s'y intéresse et on a notre manière de capter les sujets. Et donc, ça va être intéressant aussi de voir, de son regard un peu extérieur, comment est-ce qu'elle aura capté, au fait, tous ces sujets. Petite question pragmatique, on aura la pause. La pause se fera à l'étage et si vous avez besoin d'accéder à des toilettes, elles sont juste à la sortie, dans le chemin, enfin, sur le chemin que vous avez accédé pour arriver ici. Voilà, je pense, j'ai plus ou moins tout dit. Je vais pouvoir passer la parole à Frédérique Tennyson, qui est donc la présidente de l'ASA. Je vais la laisser introduire la journée. C'est vraiment elle qui est à l'initiative avec Vincent.
Tout d'abord, Joseph. Tu peux, avant que je ne commence. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présents. Donc, nous avons les 6 parties qui sont représentées. Donc, un grand merci et aussi merci aux services d'accompagnement qui sont présents. Donc, ASA, pour rappeler quand même, c'est l'association des services d'accompagnement et d'action en milieu de vie pour les personnes handicapées. Donc, on est vraiment dans le secteur milieu de vie. Et ASA, c'est une association coupole qui rassemble 19 services d'accompagnement sur toute la région wallonne et qui accompagne des personnes dans leur quotidien. Et ces personnes peuvent présenter un ou plusieurs handicaps, donc vraiment une déficience intellectuelle, mais aussi un handicap physique, handicap sensoriel, donc la cécité, la surdité, mais aussi la cérébrolésion, et aussi des problématiques de santé mentale. Et les personnes peuvent présenter un ou plusieurs handicap. Alors, avec nos 19 services d'accompagnement, on accompagne à peu près 1500 personnes chaque année. Mais c'est aussi, on dit toujours qu'on a un effet multiplicateur, parce que la personne, elle n'est pas toute seule, mais elle a aussi tout son réseau, sa famille. Et donc, nous travaillons de manière globale et à long terme. Alors, une personne a un handicap et généralement ne va pas perdre son handicap, même s'il y a certaines personnes qui voudraient bien que ce soit le cas, mais non, donc c'est vraiment un accompagnement à long terme. Et comme on dit aussi, le service d'accompagnement, c'est à partir de 18 ans, mais jusqu'à la fin de vie et même après. Donc c'est vraiment un accompagnement de longue durée. Alors je ne vais pas la faire plus longue, mais donc nous avons travaillé vraiment le mémorandum et il nous est apparu qu'il y avait vraiment 8 points essentiels, 8 points évidemment politiques, puisque vous savez bien qu'on va tous aller, tous aller voter, et donc on se permettra d'aller vous réinterpeller par après, bien entendu, parce que c'est aussi notre job, et on peut faire notre, la devise de la Belgique, hein, l'union fait la force, hein, et c'est pour moi, c'est vraiment ça, ASA. Et donc je vous souhaite une très belle matinée, et je remercie aussi toutes les oratrices et les orateurs qui ont vraiment bien voulu participer à cette matinée d'échange et aussi à Martin et aussi à Nirfrog. Voilà, je ne serai pas plus longue.
Ben merci beaucoup Frédéric. C'est vrai qu'on peut vraiment, enfin ouais, je suis aussi très reconnaissant, j'ai passé du temps à préparer avec chaque intervenant de la matinée un peu les interventions, discuter un peu du format et il y a vraiment un enthousiasme assez fort à partager différents éléments. Donc je me réjouis. Peut-être aussi un petit mot pour nos amis politiques qui sont là. L'idée sera au fait de pouvoir clôturer cette matinée en vous donnant la parole à chacun et vous donner 5 minutes au fait pour nous partager qu'est-ce que vous avez appris sur la matinée. Qu'est-ce qui vous a personnellement peut-être touché, qu'est-ce qui vous a interpellé, qu'est-ce qui vous a inspiré. Et donc peut-être d'avoir un retour là-dessus. Donc je vous préviens à l'avance, comme ça vous pouvez vous préparer. Je vous préviens aussi à l'avance que ce sera 5 minutes et pas plus. Mais comme ça, vous savez aussi, c'est vraiment ça l'intention. Hein. Donc on ne va pas venir vous demander de dire « Ok, maintenant, sur quoi vous vous engagez ?» Évidemment, ce n'est pas l'enjeu. Mais d'avoir, si vous avez déjà des éléments à donner là-dessus, c'est très bien. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de dire « Ok, mais comment, en fait, cette matinée nous fait tous évoluer dans notre vision du monde, notre compréhension du monde. » Voilà. Les photos, tout à fait. Nous avons un photographe qui s'appelle Laurent Wiliquet, qui est ici derrière, et qui est donc là, évidemment, pour immortaliser cette matinée sous forme d'image. Si pour l'une ou l'autre, c'est pas OK au fait d'être sur des images, il n'y a pas de souci, il suffit d'aller lui dire, il floute les images, il peut vraiment être attentif à ça. je pense, au plus tôt il est au courant, au mieux c'est pour lui, parce que du coup, il peut éviter de vous avoir dans son champ de vision. Si au contraire, vous adorez être sur les photos, allez le voir aussi. Et du coup, bah, vous aurez des super photos de vous. Voilà, il sera attentif à ça. Voilà. Par exemple, moi, j'ai été lui dire, j'adore être sur les photos. Donc, voilà, c'est ça. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Je vais passer la parole à Stéphane et à Sylvie. Je vais vous donner un micro à chacun. Et puis, et vous êtes directement dans le bain. Voilà.
Merci.
Mais vous nous aidez, non?
Oui. Et je vais vous aider, ne vous inquiétez pas. Ouais. Bah, est-ce que vous pouvez commencer simplement par nous dire qui vous êtes, en fait? L'un et l'autre, l'un par rapport à l'autre. Qu'est-ce qui fait que la vie vous a amené à passer du temps ensemble? Et ouais, qui est-ce que vous êtes?
Sylvie, tu commenceras bien. Hein.
Ben voilà, je m'appelle Sylvie Monti, j'ai 38 ans, j'habite à Liège. J'ai une petite fille de 14 ans, oui, qui s'appelle Elodie. Et je suis avec le tas depuis maintenant 9 ans.
Voilà, moi c'est Stéphane David, et je suis travailleur social dans un service d'accompagnement pour adultes, le TAH, à Liège. Et comme on dit dans notre secteur, je suis le référent de Sylvie Monti, à savoir que c'est, mis à part en période de congé, mis à part ces périodes-là, c'est moi qui travaille essentiellement avec Sylvie.
Et donc Sylvie, toi tu connais Stéphane depuis le début, depuis que tu es rentrée, enfin que tu as commencé à te faire accompagner par le TAS, c'est ça?
En fait, au début on a une rencontre avec les personnes. Donc j'ai eu Monsieur David. Puis après, on a une liste d'attente qui est assez... Ben, moi, j'ai dû attendre un an, si pas deux. Et puis après, ben, une fois que la liste d'attente elle est finie, ben, j'ai cru que je n'allais pas avoir un assistant social parce qu'il y a une liste d'attente. On n'est pas... C'est pas... Voilà, quoi. Donc, une fois que j'ai eu... Ben, ça a passé, ben, je l'ai eu près de moi, quoi.
OK.
Près de nous.
Ouais. Ah ouais, vous avez. Ouais. Et qu'est-ce que ça a changé du coup? Qu'est-ce que ça vous a apporté?
Ben ça a apporté beaucoup de choses parce que bon, grâce au service le TAS, j'ai réussi mon permis. J'ai appris à faire mon permis de conduire. J'ai appris à faire.
Attendez, le permis de conduire, ça veut dire que tu voulais avoir ton permis de conduire?
Oui.
Et c'était compliqué pour toi de le faire toute seule ou c'était quoi les difficultés?
En fait, mon handicap à moi, je ne sais pas bien lire, je ne sais pas bien écrire, j'écris à ma façon, donc je suis pas une grande experte quoi pour écrire. Et donc j'ai demandé à Monsieur David pour que on se voie un peu plus souvent. Et on le faisait avec mon PC, parce que j'ai tout chez moi. On le faisait avec mon PC. Pendant un an, j'ai étudié comme il faut pour avoir mon permis de conduire, quoi.
C'est ça. Donc, c'est pour le permis théorique, hein, c'est ça?
Oui.
De pouvoir passer à l'examen comme tout le monde, c'est ça? Le permis avec l'écran, on l'a tous passé, je pense. Enfin, en tout cas, beaucoup de gens dans la salle. On sait comme ça peut être un moment stressant. Et donc, ça, t'as été aidé pendant un an pour le préparer, c'est ça?
C'est ça.
Ouais. Et tu l'as réussi?
Bien sûr.
Bien sûr.
Je lui ai même téléphoné. Du premier coup, en plus.
Du premier coup, ouais.
Ah non, ça c'est sûr.
Je pense pas que tout le monde dans la salle puisse se vanter de l'avoir eu du premier coup.
Ouais, mais on est aidé, hein. Ouais. On triche un peu.
On veut pas connaître tous les détails non plus.
Non, c'est...
Ok, mais donc ça t'a vraiment aidé à pouvoir passer le permis de conduire.
Oui,
Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, du coup, d'avoir ce permis de conduire?
Ben, ça a changé beaucoup de choses parce que ma famille, ben, il n'y a personne qui habite à Liège. Ils sont tous du côté de Charleroi et la Louvière. Puis ben, de conduire ma fille à l'école, de faire plein de choses avec elle, de passer des moments que toutes les deux parce que bon, j'ai un compagnon, je ne suis pas toute seule. Donc ben, des fois, ben, le matin, c'est moi qui vais la conduire. Ben, on n'est que toutes les deux, donc on se parle, tout ça, elle met la musique pour aller à l'école, et voilà, quoi. Donc, et puis pour faire les courses, quoi, parce que, bon, c'est pas évident, quoi, de prendre le bus et de faire ses courses, quoi, parce que, bon, Et puis, bon, j'aurais préféré d'avoir mon permis quand elle était petite que quand elle est grande. Parce que quand tu dois prendre le bus et qu'il y a des gens qui ne font pas attention aux poussettes, ben voilà, quoi.
Ouais.
Mais bon, je l'ai eu, quoi.
Ben ouais, félicitations, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles Monsieur David t'a aidé aussi ou je pense qu'il y a tout un suivi aussi administratif, hein, il y a des choses comme ça, non?
Oui, avant de passer mon permis, au tout début, il venait parce que qu'est-ce qu'on a encore fait?
Toute la mise au point, toute l'évaluation, ouais, l'administratif.
Ouais, on a pour payer les factures. Je l'ai fait pendant un bon moment parce que j'étais une débrouillarde. Donc, on payait les factures ensemble. Puis après, à un moment donné, c'est comme ça qu'une fois que j'ai pris le bain, que je savais comment il fallait faire, payer le loyer, payer l'électricité, tout ça, on l'a fait ensemble. Puis après, une fois que ça a été bien mis à place, on a arrêté, on a passé au permis de conduire. Une fois que le permis de conduire, j'ai réussi. Le reste, je l'ai fait avec une autre personne pour conduire, parce que ça, il ne peut pas nous apprendre. Puis alors après, il y a eu mon bypass, que ça, il m'a accompagné pour les médecins, voir la psychologue, les médecins, tout ça. Donc, il y a eu ça. Et puis, alors après, il y a 4 ans d'ici, j'ai fait une dépression. Je ne l'ai montré à personne. Donc, j'ai perdu deux membres de ma famille qui étaient chers à mon cœur, qui veut dire le père de ma fille et le grand-père. Donc, je ne l'ai pas montré à personne, ni à M. David. Mais en fait, j'ai claqué mon argent à rien. Je ne payais plus rien parce que je ne voulais plus rien faire. Et donc, maintenant, maintenant 4 ans, presque, 3 ans ou 4 ans, maintenant, je me suis mis sur un administrateur parce que je n'ai pas eu le choix. Donc, malgré ça, il est super sympa. Et voilà, quoi.
Et à ça, c'est aussi quelque chose que Stéphane David t'a aidé aussi à retrouver, du coup, après cette dépression, peut-être même pendant, à pouvoir gérer un peu l'administratif, à gérer tous ces papiers qui s'accumulaient, c'était comment?
Les papiers qui s'accumulaient, ça, il n'aurait pas su le faire parce que j'avais trop à payer. Mm-hmm. S'il aurait pu avoir une baguette magique, il l'aurait fait, je crois. Mais malheureusement, il n'en a pas. Donc, c'est un peu de ma faute. J'aurais pas dû me laisser aller. J'aurais dû l'appeler et de lui dire, David, s'il te plaît, viens vite. Il y a un gros, gros souci, ça ne va pas. Je ne l'ai pas fait, c'est de ma faute. Donc ça, je sais que j'avoue que sur ce point-là, j'ai pas été... C'est pas de sa faute à lui. Donc voilà, quoi. Et puis, j'ai retrouvé quelqu'un qui est, comme M. David, à la même vision des choses, et qui m'a dit, non, il faut que tu ailles sur l'administrateur parce que je ne mangeais plus rien. Donc, je n'en ai qu'à manger à ma fille, quoi. Donc, c'est pour ça que je suis contente que voilà, quoi. Tout s'est enchaîné, quoi. Maintenant, on verra bien qu'est-ce qu'on va faire.
Et vous continuez à vous voir souvent, alors, du coup? Vous avez une récurrence, une régularité?
Pour le moment, oui, parce que j'ai besoin. Ouais. Parce que j'ai besoin de parler, j'ai besoin... Parce que je parler à ma famille, c'est compliqué. Parce que déjà, je n'ai plus que ma mère et une tante. Parce que tout le reste m'a renié. Donc, j'ai pas tellement beaucoup d'affinité avec mon père, malgré qu'il est vivant, avec ma marraine, malgré qu'elle est vivante. Avec des cousins et cousines, je les vois pas du tout. Donc, à part, je vais dire que j'avais des autres services, j'avais la boussole, j'ai plus de nouvelles non plus. Parce que c'est grâce... avant, ils faisaient des activités avec nous et avec la petite, et maintenant, ils font plus rien. Donc, je vais dire, à part Monsieur David, non, je n'ai plus personne. À part le tas, non, je n'ai plus personne.
Donc on sent que c'est vraiment beaucoup plus que juste un accompagnement administratif ou technique. Il y a vraiment ce côté humain qui est très, très présent.
À vrai dire, quand je décris le tas, pour moi, c'est un assistant social, un psychologue et un peu beaucoup de choses, quoi. Parce que voilà, quoi. On a fait plein de choses ensemble et c'est comme on m'en disait, si j'aurais pas eu le SAJ qui m'aurait mis dans les mains de eux, qu'est-ce que j'aurais fait? où est-ce que j'aurais été. Tout le monde se pose cette question-là, mais ça, c'est comme ça.
Ah ben merci, merci pour ce partage.
De rien. Merci.
Bravo. Stéphane, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça?
Ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'à la fois dans le travail qu'on peut mener, et ici en l'occurrence avec Sylvie, mais ça touche aussi d'autres personnes, il y a parfois des réponses à des besoins qui sont tout à fait criants et qui ne souffrent d'aucune contestation. Et après avoir fait le tour de services généralistes qui pourraient aider les personnes et après avoir fait le constat qu'il n'y a pas de services spécifiques qui peuvent aider les personnes en raison de certaines difficultés qui leur sont propres. Il y a parfois aussi des souhaits d'émancipation chez les personnes qui s'expriment, parfois rapidement, parfois plus tard. Et donc, en quelques traits, je vais refaire très bref, néanmoins, pour un peu leur dire à ma façon. Dans le contact qui a été pris avec notre service, le contact était pris par le SAJ parce qu'effectivement, eux n'étaient pas en mesure de réaliser certaines choses, ainsi que d'autres services liés à l'aide à la jeunesse, qu'il y avait des actions qui devaient être propres, destinée à Sylvie, et au départ de certaines difficultés, sachant qu'elle a par ailleurs beaucoup de compétences, on l'a entendu. Et donc, dans un premier temps, l'histoire du suivi administratif, c'était vraiment une mise au point. Donc, l'idée, c'était pas de se dire on va tout refaire avec Sylvie, mais on va vraiment faire le point sur ce qu'elle sait faire et éventuellement ce qu'elle sait moins faire. Concernant la question administrative et budgétaire, on a pu constater après plusieurs mois, on a quand même pris le temps. Bah, à l'époque, on se voyait une fois tous les 15 jours, parfois une fois par mois seulement, puisque je n'avais pas vraiment de crainte particulière, mais en tout cas, on a pu constater qu'elle avait déjà certains acquis qu'on a pu consolider et qui nous ont amené au constat que Sylvie était tout à fait en mesure de gérer ses affaires administratives et budgétaires et de ne pas se mettre en péril. Et il y a vraiment eu un moment où on a eu la conviction que c'était le cas, et donc on a décidé ensemble que nous n'interviendrions plus là-dessus. Ceci, donc l'accompagnement aurait pu se terminer sur ce constat-là. Néanmoins, Sylvie avait d'autres aspirations et elle nous a posé la question si on pouvait l'aider. Et donc son aspiration, c'était comme d'autres personnes, effectivement, d'avoir un moyen de mobilité personnel et d'acquérir une voiture. Donc on l'a aidé là-dessus. Pourquoi ? Parce que le système tel qu'il est ne permettait pas à Sylvie de pouvoir apprendre la théorie comme d'autres personnes, que les auto-écoles sont chères, mais ça, on aura encore pu y pallier peut-être par d'autres appels à fonds, mais que les techniques utilisées ne sont pas individualisées. Et donc, en termes de timing, en termes d'attention portée à la personne, donc on a vraiment fait un travail de fond pendant près d'une année, où on se voyait habituellement une fois par semaine pour vraiment faire un travail de fond d'apprentissage et d'essayer, moi, de comprendre ce que Sylvie comprenait et ce qu'elle ne comprenait pas, et de vraiment l'amener à s'approprier la matière, un, pour qu'elle puisse passer un examen, mais deux, qu'elle puisse être sur la route de façon sécure. Sur la fin, on s'est même vu deux fois par semaine pour bien ancrer les choses et pour que Sylvie arrive vraiment avec une sérénité à l'examen. Donc ça s'est passé. De nouveau, on aurait pu arrêter l'accompagnement. On aurait pu arrêter l'accompagnement là, mais on ne sait pas tout faire en même temps. Et Sylvie, quelque part aussi, avait mis des choses en parenthèse, sachant qu'elle avait compris que nous ne pouvons pas être disponible plusieurs jours par semaine pour faire plusieurs choses, parfois plusieurs choses en même temps. Et donc, elle avait le souhait de prendre soin d'elle. Il y avait eu des alertes et son médecin l'avait mise en alerte de certaines choses, d'où il y a eu tout un travail qui a été fait pour l'opération dont elle a parlé. Mais les démarches étaient difficiles pour elle, à la fois humainement aller vers les services et puis pour être certain de bien comprendre tout ce qui peut se passer. Même si, de nouveau, Sylvie a beaucoup de capacités, de temps en temps, être en appui et être accompagnée de quelqu'un, c'est fort utile pour aussi aller jusqu'au bout, au bout de la démarche. Puis est arrivé ce qu'elle a évoqué, un vrai coup dur dans sa vie, que moi-même, alors que j'avais des contacts réguliers avec Sylvie, je n'ai pas vu tout de suite. J'ai envie de dire, il y a vraiment eu un jour où, quand je suis arrivé chez elle, je me suis dit, mais là, c'est vraiment le bordel et ça ne ressemble plus à ce que Sylvie est. Et donc, on en a parlé, on a pris tout un temps pour en rediscuter parce que c'était extrêmement difficile pour Sylvie de discuter de ce fléchissement qui lui était arrivé. Et voilà, les choses étant ce qu'elles sont, moi, ça m'est déjà arrivé de faire quelques petites médiations de dettes. Mais voilà, il y a un moment, il faut aussi savoir que des choses qui nous dépassent, il y a des ressorts que l'on n'a pas. Et donc, je ne voyais pas d'autre solution que d'aller vers une administration de biens. On a pris le temps d'en parler pour informer, pour que Sylvie fasse son chemin mentalement sur le fait qu'elle allait quelque part être sous l'autorité, devoir dépendre de quelqu'un, qu'elle allait devoir lâcher prise sur certaines choses, mais en même temps le bénéfice qu'elle pourra en tirer. Et donc elle a pris la décision d'aller vers l'administration de biens, aussi en sachant qu'elle peut en sortir un jour, puisqu'on n'est pas forcément dans des systèmes définitifs. Et c'est la démarche dans laquelle Sylvie est pour le moment. Elle a un administrateur de biens qui fait tout à fait bien son travail, avec qui elle collabore plutôt facilement, mais l'horizon, même si pour le moment ce n'est pas encore à l'actualité, il reste de pouvoir récupérer cette capacité à gérer de nouveau ses affaires elle-même, parce que intellectuellement la capacité est tout à fait là, mais Sylvie ne se sent pas encore suffisamment forte. Voilà, ce sont aussi des choses auxquelles nous on estime qu'on doit être attentif, parce que Sylvie a 38 ans, il n'y a pas de raison que pendant 40 ans, on va dire comme ça, elle soit encore sous administration de biens, si elle peut redevenir apte en tout point à assumer ça, et donc à pouvoir voilà, refaire tout ça par elle-même. Donc on reste présent pour à la fois aussi sentir un peu les choses et peut-être la relancer sur quelque chose qui lui tient à cœur. Par ailleurs, précisément sur la question des relations avec son administrateur de biens, globalement, Sylvie a une capacité à avoir des relations tout à fait positives. Il arrive parfois que sur certaines demandes qu'elle pourrait faire à l'administrateur de biens, elle ait un peu un malaise ou un doute ou un emportement a priori, se disant mais non, ça il va me refuser cette aide-là. Et donc on peut préparer, en discuter pour préparer la façon dont on va interpeller l'administrateur pour que les choses aient à leur fin. Et habituellement ça se passe de façon tout à fait optimale. Voilà, en quelques traits ici un peu comment ça fonctionne. Donc il y a des demandes explicites, il y a des demandes informelles, il y a des demandes qui naissent, il y a les événements de la vie, ce qui s'est passé ici, l'administration de biens, personne n'aurait pu le présumer. Bien sûr. Des événements de vie qui ont vraiment fait rupture et qui ont redessiné les choses, auxquels un service comme nous, on est tout à fait réactif. Et on est disposé à le faire. Enfin, on est plus que disposé. Ouais. C'est vraiment une intention tout à fait ferme d'être réactif à des événements de la vie. Donc,
et voilà. Peut-être si on décadre justement par rapport à ce cas-ci ici, pour toi, pour vous, c'est quoi les grosses difficultés? Si je regarde un peu par rapport au mémorandum, ici c'était surtout un peu sur la question de la politique du parcours de vie de la personne en situation de handicap, un peu cette vision long terme. Est-ce que toi, tu dois suivre plusieurs personnes en parallèle? Quels sont les enjeux et les difficultés que tu rencontres?
Dans le travail avec par rapport à Sylvie
ou en général, non. Dans les accompagnements?
La difficulté, souvent, c'est en termes de gestion de service, je dirais, c'est de pouvoir à la fois assurer des suivis qui sont à long terme et qui sont quasi certains de durer toujours, parce que effectivement. Il y a des difficultés qui demeurent et il y a des difficultés qui ne sont prises en charge par aucun autre service que les services d'accompagnement. Et si les services d'accompagnement sont nés, c'est notamment quand même bien pour répondre à des personnes qui ont certaines difficultés. Et donc dans la gestion des services, c'est à la fois mêler ça et mêler le souhait que nous avons de ne pas forcément non plus rester toujours, mais par contre d'être disponible et le cas échéant selon les événements de la vie. Donc il y a parfois des personnes que l'on a vues pendant un certain temps. Voilà, ici par exemple, il y a 4 ans, on aurait peut-être pu arrêter l'accompagnement et l'événement qui est arrivé aurait pu arriver 4-5 ans plus tard, imaginons. Et donc on aurait pu être mobilisé 4-5 ans plus tard. Et en termes notamment de gestion d'équipe, Ce n'est pas évident d'à la fois se dire on est disponible pour des personnes qu'on voit de façon régulière et en même temps de pouvoir répondre à des demandes qui vont ressurgir quelque part parce qu'il y a eu un événement de vie et auquel on estime qu'on doit pouvoir répondre parce que ça fait partie de la vie. Et donc ici, on est à un service en milieu ouvert, donc dans la vie ordinaire. On est dans des cycles de vie ordinaires, mais dans les cycles de vie ordinaires, il peut arriver de tout et tout à n'importe quel moment, que ce soit des décès, une rupture, la perte d'un travail, un accident aussi, une maladie. Parce que tout peut arriver aux personnes que l'on accompagne.
Bien sûr.
Il y a certaines difficultés au départ, mais par ailleurs, après, il peut arriver toute une série de choses, comme à nous, tout à chacun. Et donc, la difficulté, c'est vraiment, c'est, moi personnellement, particulièrement, c'est celle-là. C'est d'allier le long terme et la disponibilité. Donc, voilà, on parlera de flexibilité. C'est plutôt pouvoir, excusez-moi, être disponible, être réactif quand il le faut autant que possible.
C'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Merci Stéphane, merci Sylvie pour ces partages. Ça nous permet vraiment, je trouve, de toucher du doigt, enfin, vraiment de sentir ces vécus. J'imagine qu'il y a peut-être l'un ou l'autre qui ont des questions. Ce que je propose de faire, c'est qu'on va écouter les deux intervenants suivants et puis après on ouvrira un espace un peu de réflexion, de questions peut-être. Peut-être vous voulez aussi, ça vous rend curieux aussi, hein, peut-être de poser des questions plus d'approfondissement. On aura un espace pour ça juste après. Je vais maintenant passer la parole à Leslie et Marie, qui sont deux travailleuses sociales. Qui se sont mis exprès, pas l'une à côté de l'autre, comme ça fait une discussion un peu de part et d'autre. Et donc, Leslie et Marie, vous nous avez préparé un dialogue, c'est ça ?
Oui.
Ouais. Vous voulez nous dire un mot sur ce que c'est ou vous voulez le faire directement ?
On va le faire directement.
Allez-y, alors faites-le directement.
Salut Marie.
Salut Leslie. C'est sympa de se retrouver, ça fait longtemps.
Oui, c'est vrai. Tu vas bien, Marie ? T'as une petite mine.
Ah oui, juste beaucoup de boulot. Une charge administrative de plus en plus lourde et pas vraiment cohérente.
Ah oui. Dis, Marie, je sais que t'es assistante sociale, mais tu peux me réexpliquer ce que tu fais comme travail ? J'ai jamais vraiment compris.
Oui, Leslie, je peux. Fracasse pas, c'est souvent le cas. Rares sont les personnes qui comprennent, finalement. Ça fait presque 40 ans que les services d'accompagnement existent. Et malgré ça, notre travail semble encore méconnu, même par notre pouvoir subsidiant. De plus, à chaque élection, on change de ministre et à chaque fois, on peut recommencer à réexpliquer ce qu'on fait.
Ah oui, je suis désolée. Mais je me souviens pourtant que pendant le Covid, vous êtes resté ouvert. Comment est-ce qu'il disait ? Un service essentiel ?
Oui, c'est vrai. Bon, allez, je te réexplique vite fait. J'accompagne des personnes handicapées adultes à leur demande pour leur permettre de vivre en autonomie. Je travaille en milieu ouvert, c'est-à-dire dans leur milieu de vie, là où elles veulent habiter. Mon travail est très différent en fonction de la personne que j'accompagne. Ça dépend de sa situation familiale, de son handicap, de ses ressources, de son projet.
Oui, ok, tu m'excuseras, mais ça ne me parle toujours pas beaucoup.
Bon, allez, concrètement, aujourd'hui, par exemple, j'ai accompagné une personne à un rendez-vous chez une diététicienne. Elle a le diabète et elle doit absolument faire attention. Eh bien, ça n'a l'air de rien comme ça. Mais ça a été complexe de faire passer certains concepts comme hyper, hypoglycémie, insuline, sucre lent, sucre rapide. Pour nous, ce sont des concepts qui peuvent paraître de base. Mais pour les personnes que j'accompagne, ce n'est pas évident. Et la diététicienne, elle ne cerne pas toujours les difficultés de compréhension. Alors après ça, je devais voir une personne qui a annulé son rendez-vous en dernière minute. J'en ai profité pour faire un peu de travail administratif. Mais j'étais seule au bureau, donc j'ai aussi répondu au téléphone qui n'a pas arrêté de sonner. J'ai aussi tenté de joindre la mutuelle pour avoir un renseignement pour un autre accompagnement. J'ai passé 20 minutes en attente. Pendant ce temps, j'ai complété mes rapports d'intervention. Enfin bref, pour la mutuelle, finalement, j'ai dû raccrocher parce que j'avais mon autre rendez-vous.
Ah oui, il y a tellement d'attentes que ça.
Bon, ça dépend à quelle heure tu téléphones et dans quel endroit. Mais vu mon agenda, je ne choisis pas toujours quand j'ai la possibilité de joindre les services. Parfois, la ligne ne me répond pas du tout. D'autres fois, après 20 minutes d'attente, ça raccroche aussi. Je ne te mens pas. Je peux passer 2 semaines avant de réussir à atteindre quelqu'un. Et encore, je suis gentille. J'ai remarqué que sur certaines lignes, C'est une voix robotisée qui me répond maintenant. C'est fou quand même.
Ah oui, mais ça a toujours été comme ça.
Mais non, non, la société change. Moi, quand j'ai commencé à travailler, c'était pas du tout comme ça. Quand on téléphonait quelque part, on avait quelqu'un. Que ce soit dans les hôpitaux, la mutuelle, au SPF, à la banque. On avait même des personnes de référence dans nos réseaux. D'ailleurs, ces échanges, ils m'ont beaucoup appris. C'était une formation en soi. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. C'est plutôt rare quand on arrive à parler à quelqu'un.
Oui, j'ai déjà remarqué tout ça pour moi personnellement aussi, mais j'ai l'impression que c'est depuis le Covid, non ?
Moi, je ne sais pas si c'est ça. Mais ça semble avoir bien accéléré les choses, en tout cas.
Enfin, de mon côté, je préfère passer par Internet. En général, les gens finissent par répondre aux formulaires que je complète en ligne.
Mais je comprends que pour toi, Leslie, ce soit finalement plus simple. Mais pour mon travail, ça complexifie les choses. Si je veux faire les démarches avec la personne, que je vois en moyenne une fois par semaine, et si je dois attendre que l'opérateur me réponde ou me rappelle, eh ben je ne suis plus avec la personne. Donc la personne n'est plus concernée directement. Ou alors, le service ne veut pas collaborer car la personne n'est pas présente. Et si je donne le numéro de la personne que j'accompagne pour qu'elle soit rappelée en mon absence, ben, elle a rarement les capacités de comprendre les enjeux de la conversation et ça n'aboutit pas. Les gens peuvent vraiment perdre des droits à cause de ça. Pour que tu comprennes un peu mieux, pour la plupart des démarches, il faut communiquer une adresse mail. Dans la plupart de mes accompagnements, les personnes n'ont pas d'adresse mail car ils n'ont pas la capacité de la gérer ou bien ils en ont 10 et ils ne se souviennent plus ni des mots de passe, ni de l'adresse utilisée, ni des identifiants.
Oui, tout ça, ça me paraît complexe, en effet. Et tu m'expliquais ta journée tout à l'heure. Après ça, tu as fait quoi ?
Mon rendez-vous suivant... Ah oui, c'était une visite à domicile chez une personne. Je m'y rends chaque semaine.
Et vous avez fait quoi ?
Ben, j'ai pris de ses nouvelles. On a discuté de tout, de rien. On a relevé son courrier.
Ah oui, ben, vous n'avez pas fait grand-chose, alors ?
Leslie, en apparence, non. Mais ce passage à domicile permet à la personne d'être stable au niveau de ses angoisses, ses inquiétudes. Ça n'a l'air de rien, mais ça rompt sa solitude. On entretient son réseau existant, on lui permet de comprendre les courriers qu'elle reçoit. Ça la tracasse de recevoir des lettres qu'elle ne comprend pas.
Et ça pourrait être considéré comme du travail de prévention, alors ?
Oh, je crois que tu as raison. J'aime bien dire que notre travail est un outil de paix sociale, un tampon entre les tensions de la société et un public fragilisé.
Et pendant le confinement, vous n'êtes pas passé par le télétravail.
Le télétravail. Comment on télétravaille avec des humains ?
Ou en visio, peut-être.
Je te l'ai dit tout à l'heure, la plupart des personnes qu'on accompagne n'ont pas d'ordinateur ou ne maîtrisent pas l'outil informatique, même après de multiples apprentissages. Tout ce monde qui change et tend vers le tout numérique complexifie aussi leur quotidien et les rend moins autonomes. Des personnes accompagnées par notre service faisaient énormément de démarches seules grâce à ces différents contacts, au guichet, à la banque, la mutuelle. Actuellement, elles n'ont plus accès à ces personnes et ne savent donc plus faire les démarches seules. Elles sont donc réduites à nous demander leur aide. Leur autonomie a régressé, leur confiance et l'estime d'elles-mêmes aussi d'ailleurs.
Et la charge administrative dont tu parlais tout à l'heure, ça a un rapport avec ça ?
Oui, mais pas que. Depuis quelques années, on a l'impression de devoir remplir de plus en plus de paperasse.
Tu as des exemples ?
Et que oui. Notre pouvoir subsidiant aimerait que l'on remplisse un tableau où l'on définit heure par heure à quoi nous avons passé notre temps de travail. Mais comment je fais, moi, pour compléter quand pendant mon rendez-vous, j'ai fait du soutien relationnel, j'ai traité du courrier, j'ai fait des comptes, j'ai cherché un horaire de bus, j'ai remis en route un GSM. Je mets tout ça dans quelle case ?
Crois-tu qu'il ne cerne pas votre travail ?
Eh ben, c'est la pression que ça nous donne parfois. Les formulaires de prolongation d'accompagnement, par exemple, ben, ils ne sont pas adaptés à notre pratique. Beaucoup de pages, des questions qui ne servent à rien. Notre secteur est dit en milieu ouvert. Eh ben, souvent, on est amené à devoir remplir des démarches qui sont demandées aux services résidentiels. Ce qui est compliqué, car nos réalités de travail sont fort différentes. Pour la plupart, on est des petites structures. Eh ben, on a les mêmes contraintes et obligations administratives que des plus grosses entreprises. La durée des accords d'accompagnement, par exemple, qu'on reçoit de la VIC, ben, elles sont à présent de 1 an, parfois de 5 ans, parfois de 10 ans. Ben, il n'y a pas de cohérence.
Donc, si je reformule bien, tu dirais que les personnes qui vous subsidient sont un peu trop éloignées de votre réalité de terrain pour vous proposer des outils adaptés à votre pratique.
Mais oui, le terrain n'est pas suffisamment consulté. Nous devons remplir un contrat d'objectif pour 6 années qui viennent. Mais quand on travaille à partir de la vie des gens, c'est difficile de projeter quelle sera leur vie dans 6 ans. Leur situation familiale, financière, médicale aura probablement changé. Et ça n'aura plus de sens avec ce qu'on aura imaginé 6 ans auparavant.
Ah oui, c'est moche. Ouais, je comprends un peu mieux. Enfin, malgré tout, c'est chouette que des services comme ça existent, en fait. Et je compte bien en parler à ma cousine, parce qu'il me semble que les services que vous proposez pourraient aider sa fille dans son projet de vie. Elle galère un peu, la pauvre.
Oui, mais qu'elle s'arme de patience, parce qu'on a des listes d'attente conséquentes. On peut la recevoir, l'écouter, la réorienter peut-être, mais actuellement, il y a une moyenne de 5 ans d'attente dans les services.
Ouf, comment ça se fait ?
Bah écoute, actuellement, on est subsidié pour 30 dossiers, mais nous suivons 69 situations. Nous sommes subsidiés pour engager 3 équivalents temps plein, mais au final, on est 8 travailleurs, grâce à des aides à l'emploi. Aides à l'emploi qui ne couvrent pas tous nos frais, évidemment. Figure-toi que plus tard que cette année, nous devons rendre 30 000 euros à la VIC, une sombre histoire de calcul d'ancienneté des travailleurs qui ne semble pas adaptée.
C'est fou quand même. Et comment vous en sortez ?
Ah ben, il faut être créatif. Contact, représentation à des rotaries, bénévolat, divers événements, pour qu'ils versent des dons, des ventes. Oh tiens, Leslie, tu voudrais pas m'acheter un paquet de gaufres au profit de mon cerveau ?
Si, bien sûr, mets-moi 2 paquets. Ben, c'est un travail assez prenant. Tout cet investissement, ça doit prendre une énergie folle. D'où ta petite mine, peut-être. Toi et tes collègues, vous tenez le coup ?
Oh, je vais t'avouer qu'actuellement, au niveau de l'équipe, on galère. On a quelques absences. Certaines de longue durée, d'autres moins. Il faut remplacer et ça amène une surcharge de travail. Par contre, moi j'adore ce que je fais. Je travaille avec des personnes, c'est concret. Je sens que ce que je fais a du sens. Finalement, c'est peut-être ça le plus important.
Et si des services comme les vôtres n'existaient pas, qu'adviendraient-ils les personnes que vous accompagnez ?
C'est une question que je me pose parfois. Puis le handicap, c'est un grand mot, mais ça concerne beaucoup de personnes en fait. Lors d'une journée d'études, par exemple, j'ai découvert qu'une personne SDF sur 2 avait une lésion cérébrale. C'est fou quand même. C'est qu'une petite partie du public qu'on accompagne.
Ah oui, ça fait froid dans le dos. Et l'autre partie du public, c'est ?
Ben, y a des personnes avec un déficit intellectuel, handicap physique, des personnes sourdes, malentendantes, malvoyantes, bien que pour elles, il y ait des services spécifiques. Et puis la frontière avec handicap et maladie mentale, elle est parfois très mince. On parle très souvent de double diagnostic, mais les services de santé mentale sont submergés. La plupart des gens qu'on accompagne sont des oiseaux pour le chat.
Il n'est pas temps d'être confronté au handicap, si je te souviens. Et que faire pour changer les choses ?
Je ne sais pas. Dans nos missions de service d'accompagnement, à côté de la principale qui est l'accompagnement individuel, il y en a une autre appelée mission communautaire qui nous demande de mener des actions pour que les personnes vivent mieux dans la société. Société qui n'est pas toujours adaptée à chacun. Alors pour y répondre, on participe à des actions pour défendre notre travail à différents niveaux. On a la chance de faire partie d'ASA, c'est l'Association des services d'accompagnement et d'action en milieu ouvert pour les personnes handicapées. C'est une ASBL qui centre son action sur la reconnaissance des services d'accompagnement depuis 1991. C'est un travail de longue haleine et un éternel recommencement, crois-moi.
Eh bien, merci pour tes explications. Je ne suis pas certaine d'avoir cerné toutes les facettes de ton travail, mais cela m'a déjà bien éclairée. Ça semble captivant comme travail. J'espère que vous obtiendrez la reconnaissance de votre travail et un assouplissement de vos démarches administratives.
Il est encore permis de rêver, Leslie.
Bravo.
Merci, Leslie. Merci, Marie. Les paquets de gaufres sont à l'accueil pour ceux qui... Non, merci, hein. Ça permet vraiment de toucher du doigt, je trouve, cette version de dialogue permet vraiment de rentrer dans votre réalité aussi, hein, et de la valeur que vous apportez et aussi de tous les enjeux auxquels vous faites face. Si vous avez des questions, des choses qui arrivent, gardez-les bien. On va encore écouter Claire Lobet et puis après, on prendra un peu des différentes questions, interventions. Si vous voulez aussi rajouter des choses, vous aurez l'occasion à ce moment-là.
Grand merci en tout cas pour votre accueil et pour la gentillesse de l'invitation. Donc je me réjouis vraiment d'être parmi vous aujourd'hui. Donc ça va être un troisième style en fait, hein. Pas un dialogue, voilà, un style un peu plus pépère, académique, etc. Donc je vais vous expliquer d'où je parle. Bon, je connais peu, hein, je l'ai dit à Frédéric, je connais peu le monde de l'handicap, voilà, je dois vous l'avouer. Je connais mieux le monde du vieillissement, etc. Je suis depuis des années, je travaille dans une université, je suis depuis des années sociologue du digital, en fait, dont vous avez parlé, qui n'a rien à voir avec le Covid, mais qui a tout à voir avec une espèce de ce qu'on appelle le nouveau management public, hein, où tout passe par Internet. Alors, j'ai construit ma présentation, si vous voulez, autour de trois points qui vont résonner avec ce que Sylvie a dit, avec ce que vous avez dit dans votre dialogue. Le premier est un point un peu technique et c'est une histoire, en fait. Hein, c'est l'histoire des grenouilles qui pensaient que les poissons rouges sautaient comme eux, hein, comme elles. La deuxième histoire, c'est cette histoire. C'est l'histoire que vous connaissez tous. Je ne vais pas citer la firme, mais quand même, je vais la citer quand même, Proximus, hein, donc qui vous dit très gentiment que quand vous avez un problème de connexion Internet, qu'est-ce qu'elle vous dit, Proximus, quand vous avez un problème de connexion Internet? Simplement d'aller voir sur le site, évidemment. Hein, bien sûr, bien sûr. Ça me paraît d'une évidence totale. Et la troisième petite histoire, c'est ce que vous connaissez aussi, c'est les petits messages qu'on a sur les boîtes vocales, mais aussi les grands posters colorés avec une banque plus proche de vous qui vous disent « Pour mieux vous servir, nous sommes fermés ». Hein, donc voilà. Donc ça, c'est mes trois histoires du monde moderne dans lequel on vit. Alors, la première chose, je suis sociologue, je ne suis pas passéiste, vous voyez, du tout. Hein. J'aime le progrès, comme tout le monde. Je ne suis pas passéiste, mais je considère que le progrès, ce n'est pas marcher à une cadence que plus personne ne peut suivre. Je considère que le progrès, ce n'est pas uniquement penser la technologie, que le vrai progrès, c'est d'abord un progrès humain, hein, qui améliore la condition de vie de l'homme et de la femme, et qui améliore aussi le lien social entre nous tous. Voilà, donc ça c'est pour vous dire d'où je vous parle. Alors premier point, donc les grenouilles. Les grenouilles, ben, ce sont les informaticiens, mais pas que. Hein. Ce sont tous les cabinets. Voilà, je suis désolée de le dire, hein, j'ai travaillé moi-même dans un cabinet pendant 4 ans à la recherche technologique. On arrive tout fringant, on a toujours des nouveaux projets et ce qui est technologique fait moderne, fait hype. Et donc on invente de nouvelles plateformes, de nouveaux formulaires, des timesheets en tout genre, etc. Et donc en fait, quand vous voyez un peu les écrans qu'on vous propose, je vais parler d'écrans, hein, donc puisque vous vivez votre travail social à travers des écrans, hein, si j'ai bien compris. Hein. Donc, quand on voit les écrans qu'on nous propose, ben d'abord, ces écrans supposent, ont plein d'a priori. Hein. Ils supposent, premièrement, que vous avez évidemment un PC et un GSM, hein, donc parce que très souvent, il faut scanner des QR codes, etc. Ils supposent que vous avez grand maximum 40 ans, hein, pour pouvoir jongler avec les multiples ascenseurs qui descendent, qui montent, les menus composés de 36 sous-menus, etc., que vous savez lire, bien évidemment, que vous avez une vue exceptionnelle pour lire les tout petits caractères qui sont en dessous, que vous avez une incroyable dextérité pour faire défiler les écrans et surtout repérer l'ascenseur en gris pâle, hein, qui est sur le côté, que vous avez une logique à toute épreuve pour comprendre ce qui est cliquable et ce qui ne l'est pas, évidemment, cliquer au bon endroit, au bon moment, et surtout être suffisamment agile et rapide pour ne pas vous faire déconnecter en pleine opération parce que vous avez pris trop de temps. Hein? Ça, c'est vraiment ce qui se passe. Hein? Et donc, on a l'impression, et j'ai enseigné la sociologie à des informaticiens pendant des années, pour eux, quand ça va plus vite, c'est mieux. Hein? Donc, pour eux, quand c'est plus digitalisé, c'est mieux. Mais non. Hein, mais non. Hein. Et donc, on a l'impression qu'ils dessinent vraiment des écrans, enfin, qu'ils dessinent des applications informatiques qui sont adaptées à eux, c'est-à-dire les grenouilles qui peuvent sauter, hein, et qui sont valables pour nous, c'est-à-dire tous ici, hein, pas seulement les handicapés, mais tous autour de cette salle, qui sommes de bons vieux poissons rouges. Hein. Et donc, nous, on ne sait pas sauter comme eux, pas aussi vite, etc. etc. Et donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a comme conséquence, hein, que toute cette modernisation, hein, dont on nous parle, simplification administrative, hein, ça, c'est un magnifique terme, je ne sais plus le voir en peinture. Donc, vraiment, je ne sais plus le voir. Toute cette simplification administrative, ça donne quoi? Évidemment, dans vos accompagnements. Hein. Ça donne des heures, hein, et moi je vous parle en connaissance de cause, là c'est un peu de terrain, mais moi j'ai un capital génétique extraordinaire, on vit centenaire chez moi, vous voyez ? Mais donc on vit centenaire, mais à 100 ans on doit encore payer ses factures, hein ? On doit encore faire cet accès NOEP, etc., etc. Donc heureusement je suis retraitée, hein ? Je passe des heures à faire du bureau administratif avec tous mes oncles, mes tantes qui ont des centaines d'années, et pour... Non, mais c'est vrai, hein. Non, mais bon, à eux tous, hein. Et je les accompagne, et je pense à vous qui passez de plus au fur et à mesure qu'on simplifie la vie des autres, hein, c'est-à-dire les administrations. Eh bien, vous payez cash en énergie, en énervement, hein, à devoir faire tout ce qu'aurait dû faire une administration ou un service. Alors, quand on parle aux informaticiens, quand on parle aux cabinetards, quand on parle aux politiques, etc., tout ça, ils disent « oui, mais enfin, c'est le progrès, ça passera hein ». Comme si ça passera. Mais non, ça ne passera pas. Enfin, je veux dire, ce n'est pas une question de vieillesse, ce n'est pas une question d'ancienneté, ce n'est pas une question d'handicap, ça va trop vite, ça va trop loin. C'est ça le problème, ça va trop vite, ça va trop loin. Alors, pour dessiner des choses qui soient adaptées à la population, à nous, les poissons rouges, hein, et je mets nous, les poissons rouges, les handicapés, comme nous autres, hein, nous autres tous, et pour surtout dessiner des choses qui soient adaptées à tous les âges de la vie et qui soient adaptées aussi aux handicaps légers, hein, il existe toute une série de normes internationales qu'on peut suivre, vous voyez, qu'on peut suivre pour... Je n'ai plus de micro, on me coupe. Ah, non, parce que je parle beaucoup. Mais c'est vrai, je parle beaucoup. Bon. Mais il existe toute une série de normes internationales qu'on peut suivre pour dessiner des choses qui soient plus adaptées, hein, qui soient plus adaptées et qui soient plus faciles à prendre en main, plus simples, etc. Mais bon, on ne les suit pas. Il existe des tas d'associations comme les vôtres qui pourraient venir dire, hein, aux informaticiens, pourraient tester... Les applications, mais on ne les écoute pas, on ne les suit pas. On dit généralement, ben, écoutez, ça passera, etc. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que, bon, moi, quand j'ai fait du cabinet, bon, c'était dans un cabinet de la recherche et du développement technologique, et on a une grande liberté, quand on est dans un cabinet, de lancer des choses. Hein, de lancer des choses. Alors, on peut lancer des choses qui embêtent tout le monde. Hein, des formulaires, des timesheets, etc. Ça embête tout le monde. Et ça montre aussi le peu de confiance qu'on a dans certaines associations. On peut aussi lancer des choses qui intéressent tout le monde. Hein. Et dans les universités, il y a des gens qui pleurent. Donc ça, je vous le dis, des gens qui pleurent parce qu'ils travaillent sur des applications, qui travaillent sur des interfaces qui sont soit adaptées aux handicaps de la vue, soit à l'Alzheimer, soit à différents handicaps moteurs, etc. Ils n'ont pas de financement, ces gens-là. Hein. On finance tout ce qui est hype, commerce électronique, système de reconnaissance faciale pour le marketing et des histoires pareilles qui n'ont... Enfin, voilà, ça a du sens, mais pas pour nous. Hein, mais pas pour moi, en tout cas. Mais par contre, on pourrait vraiment financer et on pourrait se faire les champions, nous, la Wallonie. On essaie de suivre les grands. Hein. On ne sera jamais des Américains. Hein, on ne sera jamais la Silicon Valley en Wallonie. Par contre, on a un tissu, un réseau social extraordinaire de gens qui connaissent le handicap, qui connaissent la pauvreté, qui connaissent l'accompagnement à domicile des patients, etc. Et avec eux, on pourrait développer des applications extraordinaires qui serviraient au monde entier. Je vous rappelle quand même, hein, que, par exemple, la télécommande qu'on utilise tous pour son téléviseur, que les commandes vocales qu'on peut utiliser pour certaines choses, certaines applications, ou encore que les boîtes automatiques de changement de vitesse, elles ont été d'abord inventées pour les handicapés. Et ce sont des marchés mondiaux dont on pourrait s'inspirer. Ça va ? Première histoire. Ça va ? J'ai peur. Alors, la deuxième histoire, donc c'est l'histoire, évidemment, hein, de Proximus. Donc, mais ce n'est pas que l'histoire de Proximus, c'est l'histoire de bien des administrations. Et c'est un deuxième point fort important. Il y a de plus en plus d'administrations et de banques, mais d'administrations publiques, hein, donc dans le cadre de la simplification administrative, qui gèrent complètement leurs services en ligne, sans plus jamais voir un bénéficiaire, sans plus jamais voir un client. Ils sont quelque part retirés du monde, hein, enfermés dans leur forteresse à bonne distance du terrain. Alors on dit c'est mieux, comme ça il n'y a plus de favoritisme, comme ça il n'y a plus de tcha-tcha-tcha, copinage et je ne sais tout quoi, saupoudrage, mais non. Hein. Ils n'ont plus de lien. Ils ne voient les gens qu'à travers des formulaires, qu'à travers des cadres d'écran, etc. etc. Et donc, voilà, et ils n'ont plus de lien avec les clients que via les écrans, les formulaires en ligne, des chats, alors des chats, hein, qui sont de plus en plus intelligents, hein, donc des chats, vous voyez ce que c'est, hein, donc c'est, voilà, vous pouvez poser votre question à Samy, et alors vous dites, Samy, je voudrais savoir comment on change une domiciliation, par exemple. Samy vous répond, et vous parlez des heures à ces stupidités-là, hein, parce que ça, ça fait moderne, je ne comprends pas la question. Alors vous dites, domiciliation, prélèvement. Je n'ai toujours pas compris votre question. Alors, troisième chose, vous dites, Samy, tu es vraiment un enfoiré. Il ne répond plus. Et je vous mets en communication avec quelqu'un. Et là, vous basculez sur un call center. Hein, et vous êtes le 100e dans la file ou le 25e dans la file. Et vous en avez encore. Et voilà, ça, c'est votre vie au quotidien. Et donc, cette distance au terrain, elle est vraiment dramatique. À la fois, je dirais pour vous, bien sûr, hein, pour vous. Mais je dirais pour vous, les responsables politiques, elle est dramatique parce que vous allez avoir des administrations qui connaissent de moins en moins la réalité du terrain, hein, qui connaissent de moins en moins la réalité des terrains, qui perdent en intelligence, qui perdent en compétences des agents et qui perdent évidemment en services rendus. Autrefois, on avait, moi je me souviens, on discutait, ça me faisait déjà penser aux militaires, mais c'était quand même intelligent. Autrefois, on disait, on a la première ligne, voilà, ceux qui sont en interface, en interaction, en communication avec les bénéficiaires, puis on a le back-office, hein, la deuxième ligne, ceux qui sont planqués dans les bureaux et qui traitent tous les formulaires. Je parle mal, mais ce n'est pas grave, ça m'énerve parfois. Et donc, c'est pour ça. Mais donc, cette première ligne, hein, qui existait autrefois, elle a complètement disparu. Hein, cette première ligne, elle n'existe plus. Dans certains services, vous n'avez même plus sur les sites, hein, vous n'avez même plus un numéro de téléphone pour appeler les gens. Hein, vous n'avez même plus un numéro de téléphone. C'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe. Et c'est vraiment une catastrophe et pour les bénéficiaires et pour l'administration. Alors, je trouve que, véritablement, bon, je vais un petit peu passer, vous avez bien compris le propos, je crois, mais pour moi, ça a au moins trois conséquences, ce genre de choses. Hein. Donc, ça a vraiment trois conséquences. La première, c'est justement, hein, que la connaissance de terrain, ben, c'est vrai, hein, enfin, franchement, quoi, la connaissance de terrain, de ses difficultés quotidiennes, de ses questions, hein, des questions disparaissent peu à peu des organisations et des administrations, des formulaires mal adaptés pour que ça percute quelque part dans la tête des fonctionnaires. Il faut un bail, il faut de plus en plus de temps parce qu'ils n'ont plus tous ces petits rapporteurs qui étaient la première ligne qui viennent leur dire, écoutez, inutile d'insister avec ce formulaire, ça ne correspond pas du tout à la demande, etc. Et donc, tout se faisant en distance, sans contact, sans plus ressentir les autres. On ne ressent plus les besoins et les difficultés. Alors, ça veut dire aussi que les bénéficiaires deviennent complètement invisibles, inaudibles, ils disparaissent. Hein, ils disparaissent et voilà, la réalité devient purement théorique. On fonctionne dans les administrations, dans la banque, avec des clients théoriques, avec des bénéficiaires théoriques, avec des réalités théoriques, plus avec la vraie vie. Et ça, c'est catastrophique. Alors, la deuxième conséquence, elle concerne le sentiment d'abandon qu'éprouve une grande partie de la population. Alors, si les gens aujourd'hui se disent aussi fatigués, ce n'est pas les conséquences du Covid. Hein. Les gens sont fatigués d'être abandonnés par une frange de plus en plus large de la population. Elle se sent complètement abandonnée avec des organisations qui sont de plus en plus déshumanisées, simplifiées, modernisées, informatisées, etc. Et enfin, la troisième conséquence, qui me paraît encore plus catastrophique que les deux autres, mais qui est quand même... voilà, c'est que vu qu'il n'y a plus de première ligne, vu que les administrations ne vous voient plus dans votre travail, ne vous entendent plus dans vos difficultés, elles vous font aussi de moins en moins confiance. Et donc, comme c'est facile de ramasser des données avec l'informatique, on vous balance autant de formulaires utiles que de formulaires pour vous interroger sur ce que vous faites. Alors, ce n'est plus des rapports d'activité, ce sont des timesheets, ce sont des descriptions d'objectifs, d'actions réalisées au mois, etc., etc. Ça vous prend une plombe. On n'est pas sûr non plus que c'est lu de l'autre côté du mur, mais en tout cas, c'est ramassé. C'est ramassé mensuellement et ça vous prend des heures de travail. Voilà. Donc, il y a une sociologue, après je fais mon dernier point et puis j'ai fini. Donc, il y a une sociologue qui s'appelle Madeleine Akrisch qui disait, au fond, l'informatique, vous devez le prendre comme un acteur. Hein, vous devez le prendre comme un acteur à qui vous confiez un mandat, une mission, de réaliser quelque chose pour vous, hein, et qui vous aide. Et donc je pense que le politique doit véritablement se questionner à chaque nouvelle application, à chaque nouvelle procédure, à chaque nouveau formulaire qu'on lance, est-ce que c'est utile ? Est-ce qu'on va en faire quelque chose ? Est-ce que ça ne va pas complexifier la vie des gens ? Combien d'heures ça va prendre aux assistants sociaux, assistants sociales, de remplir ce genre de formulaire ? Et est-ce que véritablement ça va améliorer la vie des bénéficiaires ? Donc ça, c'est des questions simples, mais il faut se les poser, sans quoi la vie devient trop complexe. Et enfin, nous sommes fermés pour mieux vous servir. Donc ça, c'est quelque chose qui me frappe vraiment, et c'est ce qu'on appelle le nouveau management public, la simplification administrative, le tout à l'écran, le tout informatisé, etc. Et ce qui me frappe depuis des années, hein, c'est pas depuis le Covid, mais c'est vraiment depuis une vingtaine d'années, c'est que... De plus en plus, pour accélérer, je dirais, accélérer l'informatisation, on informatise pour accélérer, pour rendre plus rapide, pour rendre plus productif, plus efficace, les organisations. Donc, on les informatise pour les rendre plus rapides. Et donc, cette vitesse qui est gagnée par les uns, vous voyez, j'ai vraiment l'impression qu'on vit à deux vitesses ici. Cette vitesse qui est gagnée par les administrations, elle se traduit par une lenteur, un ralentissement, je vais dire, c'est pas une lenteur, un ralentissement généralisé de la vie des gens. Hein. Donc ce qui va plus vite, ce qui est gagné en vitesse d'un côté, est perdu de l'autre en énergie et en ralentissement à essayer de remplir tous ces formulaires, etc. Et donc, je l'ai dit, donc ça, c'est véritablement un constat que je fais. Ça se traduit par pour de très nombreux autres, pour l'ensemble de la population. Je dirais que la population est fatiguée de tout ça, par un temps important, passé à attendre, qu'on veuille bien vous répondre. En clair, passer à attendre. Il y a une sociologie qui décrit ça, qui décrit notre société qui devient une société de la file d'attente. Et c'est une manière d'anesthésier les gens aussi, vous voyez un petit peu, de les mettre en file d'attente. On attend comme soumis avec une certaine position de tête baissée. Et on est tout content quand on vous reçoit, quoi. J'accompagnais ma maman qui devait faire une domiciliation à la banque. J'ai pris rendez-vous à la banque. Malheureusement, un des deux était malade, donc tous les rendez-vous, on était 15 à attendre dans une salle d'attente. Vous voyez, est-ce qu'on a le droit d'être traité comme ça ? Donc c'est vraiment la transformation de notre société en file d'attente généralisée. Et donc il me semble vraiment, de deux choses l'une, ou le gouvernement continue dans cette espèce conseillée par Digital Wallonia, dans cette espèce de course folle à la digitalisation absolue, OK, mais alors on fait quelque chose et on taxe le numérique. On lève une taxe sur la numérisation. Une taxe sur la numérisation qui doit servir alors effectivement à ce qu'on ait non seulement des services d'aide à domicile, d'aide à domicile, etc., mais qu'on ait aussi des services d'aide numérique à domicile. Vous voyez, pour venir faire les factures, pour venir remplir les formulaires de la Société Wallonne des Eaux, pour etc., etc. Donc, soit on fait ça, soit on réfléchit un peu à ce qu'on fait et on ralentit un petit peu le rythme et on écoute enfin ces associations qui, en plus, une chance, sont groupées en coupoles. Donc c'est véritablement une chance. On a un interlocuteur, etc. Enfin, je voudrais conclure par une dernière chose en vous disant que les administrations, mais aussi les banques, ce ne sont pas que des distributeurs de services. Dans la vision du nouveau management public, dans la vision de cette informatisation à tout craint, c'est comme si on considérait ces administrations, ces organisations, ces banques uniquement comme des distributeurs de services, c'est-à-dire comme des distributeurs de coca, vous voyez un peu, dans des couloirs. Et comme Sylvie l'a très bien dit, moi je trouve qu'elle a vraiment très bien résumé, les banques, les organisations, les administrations publiques, c'est aussi des institutions, vous voyez ? C'est aussi des institutions. Elles n'ont pas qu'un rôle instrumental, elles ont aussi un rôle social important. C'est de nous protéger, de nous conseiller, de nous accompagner, d'être là, présente dans les difficultés de notre vie. Et ça, elles ne le font plus avec ce nouveau management public. Elles ne le font plus avec cette informatisation. Elles sont, ces administrations publiques, de plus en plus transformées en distributeurs de canettes de coca dans des couloirs. hein, où on ne voit plus les buveurs de coca. Hein. Et ça se traduit aussi, et puis j'arrête, mais par un nombre considérable de burn-out dans les administrations, chez les fonctionnaires, chez les contractuels. Pourquoi ? Ben parce qu'ils n'ont plus, il n'y a plus grand sens dans leur travail. Le sens, c'était, je connais personnellement plusieurs personnes du ministère des Finances, parce que je suis intervenue chez eux pour... Mais véritablement, on leur interdit, c'est une faute grave, hein, de prendre contact avec un bénéficiaire, enfin un bénéficiaire dans leur, un contribuable. Hein. C'est une faute grave de passer du temps à aider. Or, c'était toute leur vie de pouvoir aider. Hein. Et donc ça aussi, il faut y réfléchir quand on est dans les cabinets. Il faut redonner du sens au travail des gens et de la solidarité entre ceux qui délivrent un service et un conseil et ceux qui le reçoivent. Voilà, merci.
Merci Claire. J'adore aussi quand les intervenants s'autorégulent dans leur temporalité et je ne dois pas leur demander de finir.
J'ai fait plus que
ça va très bien. Non, très très intéressant aussi, hein, vraiment cette question, quel sens on met au numérique, comment est-ce qu'on arrive à en faire un allié plutôt que quelque chose qui sépare au final, hein, et qui coupe le lien et qui met une société un peu à deux vitesses avec des gens qui sont exclus, des gens qui sont dedans parce qu'ils arrivent à aller assez vite et puis... Ouais. Bien, donc ça fait déjà pas mal d'infos hein, pour ce début de matinée. On va avoir un temps maintenant, si vous voulez, aller un peu creuser les sujets, en fait. L'intention ici, c'est si vous avez des questions, des choses que vous voulez poser, des questions peut-être à Sylvie, à Stéphane, qui ont partagé tout à l'heure sur l'expérience vraiment directe de l'accompagnement, peut-être à Leslie, à Marie, sur leur expérience d'accompagnatrice aussi, peut-être ici à Claire par rapport à ça, vraiment... avec plutôt l'intention, plutôt que de... Enfin, peut-être qu'il y en a qui ont envie de donner leur avis, hein, et puis il y a sûrement la place pour ça, mais surtout avec l'intention principale d'aller creuser, d'essayer d'aller comprendre. S'il y a des choses, ça vous a donné envie d'aller savoir, de la curiosité, de plus approfondir, il y a vraiment un espace maintenant pour ces questions. Voilà. Et donc, si vous voulez prendre la parole, vous levez la main et je vous apporte le micro. J'en ai trois, alors il y a de la place. Ouais.
Question à Claire, le bail. À tout le monde. Oui, je suis convaincue, mais alors à 150% de ce que vous avez mentionné. Et moi, ma question, c'est qu'on a un groupe de travail qui s'appelle Accessibilité, ça fait quoi, depuis 2-3 ans. Et donc, on essaye vraiment de sensibiliser tant les pouvoirs publics que les entreprises. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Je pense que c'est l'informatisation, la digitalisation est une boîte de Pandore et que c'est quand même inouï qu'il n'y ait jamais eu de débat sur l'utilisation de la digitalisation. Et je vous demande, vous, politiques, comment peut-on fonctionner vraiment pour vous expliquer quelles sont les conséquences, mais néfastes, aussi bien pour les personnes que nous accompagnons, mais pour nous-mêmes aussi. Hein. C'est vraiment une porte close. Un petit exemple, on a envoyé 50 courriers, pouvoir public, en expliquant nos difficultés. On n'a eu aucune réponse. Rien.
Donc, question en tout cas, ou réflexion, c'est quelque chose qui dépasse d'ailleurs la question du handicap. Hein. Oui. Question vraiment de la question du numérique. Ouais.
Je voulais rejoindre cette réflexion-là aussi sur comment on peut interpeller quand on voit tout ce qui s'est passé à Bruxelles récemment avec l'ordonnance Bruxelles numérique, où les associations sont venues manifester au moment du vote. Et les politiques, certains ont répondu, mais les services n'ont pas été entendus. Et l'ordonnance, elle est votée. Et donc, quand on voit ce qui se passe à Bruxelles, on s'imagine bien de ce qui va redescendre en Wallonie après. Et donc, voilà, en effet, ça rejoint, je pense, tous les gens qui travaillent dans les services. Ce que vous avez dit dans votre dialogue, ce qu'on a entendu de votre part, c'est qu'on est confronté tout le temps sans arrêt à ça. On le signale, on le dit, on le redit, on manifeste et rien ne passe. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut vous expliquer ça, vous le faire entendre, se faire entendre ?
Mais c'est une question aussi pour toute l'Assemblée. Qui connaît Digital Wallonia ? En fait, c'est la boîte de Pandore, je dirais, du numérique en Wallonie. Et dans ces institutions, il y a des universitaires, mais énormément d'entreprises, on va dire, numériques. Et c'est eux qui dictent, en fait, la politique wallonne en termes de digital. Et je l'ai déjà dit à plusieurs associations et je le dis à chaque fois que j'en rencontre. Et c'est, en fait, c'est là qu'il faut être. Et c'est là qu'il faut ouvrir des portes. Il faut que les associations y soient pour représenter les personnes qui sont plus fragiles. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on entend quand on rentre, je dirais, dans cette boîte de Pandore digital wallonien ? C'est, bah, on va faire des formations, ça va aller. On va, il y a des subsides hein, qui sont donnés pour les espaces numériques. Vous inquiétez pas, dans X temps, ça va aller. Non, en fait, il faut aller au-delà. Il faut que les institutions, il faut, je sais qu'UNIA essaye de pousser la porte pour y rentrer. Et je pense que c'est là qu'il faut que les acteurs de terrain puissent être entendus sur les difficultés, mais aussi sur le fait qu'on ne passera pas par tout le numérique. Parce que je pense que dans beaucoup de programmes politiques, vous aurez à l'arrêt du numérique, je pense qu'il y en a pas mal qui vont le noter, mais c'est comment on va y arriver qui est important, et je pense que ça, il faut pouvoir le construire, et dans le discours, il va falloir, c'est aussi de la contagion culturelle, ce que vous avez dit sur le partage, à un moment donné, quand j'ai au téléphone quelqu'un de l'administration, ou peu importe, une autre personne, en fait, à un moment donné, on fait du partage d'expérience, et ce partage d'expérience, je pense que dans le social, on connaît, c'est l'éducation permanente, qu'il faut pouvoir mettre en avant, quand j'ai quelqu'un au téléphone, quand j'ai quelqu'un derrière le téléphone, bah, à un moment donné, il m'éduque aussi sur le fait que, ben bah, voilà, il m'indique, ben bah, ouais, il va peut-être contacter telle personne, on le sait comment ça fonctionne. Et donc, en fait, simplement dire que le numérique va solutionner, il faut casser ce discours-là avec le discours social et le discours et qu'on connaît, l'éducation permanente, enfin voilà, tous ces discours qu'on peut faire, et il faut pouvoir faire de la contagion culturelle aussi de ceux qui prônent le numérique avec notre propre discours.
Oui, enfin, moi je connais Digital Wallonia, hein, je les connais bien, mais je pense que c'est vraiment, enfin bon, allez, je vais prendre des vieux termes marxistes, mais c'est vraiment une question de représentation du monde. Hein. Leur représentation du monde n'inclut pas les plus fragiles. Leur représentation du monde, eux, ils adorent des grandes aventures technologiques. Ils adorent la Silicon Valley. Pour eux, c'est vraiment la Wallonie, c'est la Silicon Valley de demain, mais jamais. No way, hein, on est d'accord. Donc voilà, je les connais bien. J'ai même participé à leur fondation, vous voyez. Et puis je m'en suis fait jeter pour différentes raisons. Parce que, bon, par exemple, on avait un groupe aussi de travail sur le médical, vous voyez un petit peu, hein, sur eux, ce qu'ils trouvaient hype, hein, c'était des choses qui permettaient des systèmes de surveillance à distance de personnes pour le maintien à domicile, vous voyez. Enfin, et de nouveau, de la déshumanisation. Hein, on remplace par des caméras ce que des accompagnants... Enfin, voilà, ça, c'est leur vision du monde. C'est une question de vision du monde. Et je pense qu'il faut avoir... Parce que, bon, Digital Wallonia reçoit, évidemment, sa subvention qui est faramineuse du gouvernement wallon, mais il faut avoir au gouvernement des gens qui ont une autre vision du monde. C'est ça. Hein, et il faut les interpeller avec des histoires comme les vôtres. Il faut faire massivement, malgré... Hein, c'est vrai... À Bruxelles, ben, j'étais dans la carte blanche aussi. On avait les cartes blanches, on avait tout ce qu'il fallait. Mais il faut en faire massivement jusqu'au moment où ça percute quelque part. C'est un peu comme le climat, comme le réchauffement climatique. Moi, je trouve que c'est un peu le même genre. Hein. Ça n'a pas percuté pendant des années et des années. Mais à un certain moment, on voit que ce qu'on est en train de construire, c'est un monde qui devient de plus en plus invivable pour tous, quoi. Et pour les fonctionnaires, et pour les bénéficiaires, etc. Mmh. Et donc, il faut vraiment... c'est vraiment une transformation. On essaie de le faire dans les unifs. Donc, c'est par là que ça commence aussi. On essaie vraiment de les éduquer. C'est fini, le nouveau management public. Plus personne n'enseigne ça. Hein. On enseigne plutôt du management de proximité. Mmh. Alors ça devient des termes. Alors, on va faire du... Bon. Mais non, on essaye quand même. On essaye vraiment. On essaye vraiment. Mais il faut, à un certain moment, qu'il y ait des politiques qui en soient convaincus et qui aient une autre vision du monde, peut-être une vision un petit peu plus... Je dirais, mais humaine, moins capitaliste, vous voyez, moins. C'est facile de marcher avec ceux qui marchent. Hein. Ça, c'est facile. Hein. C'est beaucoup plus difficile, mais ça permet d'aller beaucoup plus loin et de rapporter peut-être plus, hein, de marcher avec tout le monde et d'entendre tout le monde et de faire des choses qui soient plus, allez, plus adaptées à la population telle qu'elle est, telle qu'elle vieillit, etc., et sa fragilité.
Merci pour ces interactions. Peut-être, si vous voulez, on peut. Mais il nous reste un peu 10 minutes avant la pause. J'aimerais bien aussi m'assurer que si certains ont envie de poser des questions ou d'échanger un peu aussi avec les autres intervenants qui ont partagé avant, on a la chance d'avoir ici Sylvie, David, enfin on a différentes personnes, si vous voulez aussi passer là-dessus. Oui, vas-y, ouais.
J'ai une question, c'est peut-être bête, mais on s'est aidé pour les inondations. On s'est aidé quand il y a des personnes qui ont une maison effondrée. Pourquoi on ne sait pas nous aider, nous ? On ne demande pas, grand-chose, on ne demande pas l'aumône. Mais nous aider un petit peu, nous. Comme ça, ben, y a plus de personnel. Et comme ça, ils peuvent passer plus de temps avec nous. Parce qu'une heure, ce n'est pas grand-chose. Hein. Ils n'ont même pas le temps de boire une tasse de café. Et au moins, faire au moins des activités avec eux. Parce que les activités... On aimerait bien d'en faire avec eux, mais les activités sont un peu... Il y en a qui peuvent se le permettre, et il y en a qui ne peuvent pas, comme il y en a qui sont en chaise roulante, qui ne peuvent pas faire des activités avec nous, parce que voilà, c'est plus compliqué pour eux. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous.
Ce serait quoi le type d'aide supplémentaire que tu voudrais, si c'était dans le cas idéal ? Ce serait quoi le monde idéal pour toi ? Ah ah ! Ce serait quoi, idéalement, dans l'idéal, ce serait quoi ? Plus
avoir
de temps ?
Ouais. Avoir un monde parfait, pas trop parfait, mais que tout le monde s'entend bien et que tout le monde s'aide. Et pas que de dire, ouais, il y a une personne qui est handicapée, ben on va lui marcher dessus, on va lui cracher dessus. Ça, ce serait bien. Que ce soit pour n'importe qui, qu'une personne qui soit normale, une personne qui soit bien, ou n'importe qui. C'est pas parce que, voilà, on est politicien, ou c'est pas parce qu'on est curé, ou qu'on est hospitalisé, ou parce qu'on est tchic, on est tchac. Non, on est tous nés d'êtres humains, comme la même personne. Donc, c'est pas pour ça que je vais dire, ouais, mais un politicien, c'est comme ça. Oui, mais celui-là, il est comme ça. Non, on est tous dans le même sac, on est tous dans le même... Comme on dit dans la loi et dans la Bible, on est tous frères et sœurs.
C'est ça. Donc de voir cette valeur commune de l'humanité, alors c'est ça. Hein.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est vraiment à l'essence dont on parle. Hein. Merci.
C'est vraiment important. C'est ça aussi l'écologie sociale, on disait. C'est vraiment ça.
Donc, éminemment politique, donc. Ouais, ouais.
Sylvie, quand tu parles d'activité, est-ce que tu peux dire un petit peu plus ? Qu'est-ce que c'est ce genre d'activité ?
Ben, par exemple, il y a l'activité à la mer. Ben, on doit payer notre activité. Je ne dis pas que c'est cher. Hein. Mais comme je suis sur un administrateur, ben, des fois, je dois lui demander de l'argent. Ben, c'est compliqué parce que si je lui ai déjà demandé de l'argent au début du mois... Ben, je ne peux pas lui demander pour faire une activité qui coûte 40 euros. Si je lui ai déjà demandé 50 euros, c'est en fonction de notre salaire. Donc, on ne peut pas faire comme on veut. Par exemple, ben, si aujourd'hui, David me propose une activité à 100 euros et que le mois passé, ben, je lui ai demandé un nouveau GSM parce que ma fille a cassé son GSM, c'était le cas, ben, c'est pas évident parce qu'il va me refuser, parce qu'il va dire ben non, tu attends que le jour que tu as touché, alors l'activité elle est passée, ben ça veut dire que la personne elle peut pas faire l'activité, alors elle doit passer à chaque fois son tour. Il y a beaucoup des restrictions, quoi.
Oui. Et c'est vrai que ça coûte cher les activités, et des fois pour trouver de l'argent, c'est pas toujours évident.
Non.
Qu'est-ce que ça t'amène si tu avais pas ces activités là? Qu'est-ce que ça t'amène? Qu'est-ce qui te manquerait?
Bah, je resterai chez moi à faire des diamants pelting.
Et alors ?
Et à part aller chercher ma fille à l'école et retourner chez moi, c'est tout ce que je ferai.
Voilà. Donc, si je te pose cette question, c'est que je travaille aussi dans le collectif et on met aussi on construit aussi des activités pour des personnes, voilà, qui vivent comme toi. Ça leur apporte, et c'est ce qu'ils disent, c'est du lien social. des rencontres, de s'ouvrir, de sortir un petit peu des dépressions et des choses comme ça, ou des difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie. Et voilà, c'est tout. Alors, ce n'est pas des demandes concrètes, comme on a parlé aussi un petit peu au début, mais ça leur permet de se ressourcer, de reprendre un petit peu de l'énergie et tout ça. C'est une part, il me semble, quand même assez importante de notre travail. Moi, je travaille sur les deux pôles, à la fois de l'accompagnement individuel, à la fois sur de l'accompagnement collectif avec des sorties. Et je crois que, aussi bien pour eux, même aussi pour moi, ça permet aussi un bon équilibre et un bon enrichissement. Voilà.
Ouais,
c'est une autre dynamique des services d'accompagnement. Et voilà. Après, je switch juste et après, je te passe la parole, Laurence, sur le numérique avec deux exemples. Par rapport à ça, je crois qu'il y a des solutions parce qu'on avait à Interaction un temps, ça s'appelait Visa pour le Net. C'était quelque chose, un site qui était construit avec des personnes en situation de handicap, donc à la portée d'eux, qui a été subventionné un temps par l'Europe. Après, ça s'est arrêté et on a eu beaucoup de mal à trouver de nouvelles subventions. Alors qu'il y a pas mal de personnes qui nous demandaient « Ah mais continuez, on a besoin de ce que vous proposez. » Donc il y a des solutions qui existent. Ça, c'est une première chose. Et donc du coup, à côté, j'ai dit « On va essayer de construire, on ne peut plus fonctionner, on va essayer quand même de construire quelque chose. » Je suis allé voir des EPN, établissements publics numériques. Et là où on dit « Ah non, nous, on est spécifiquement pour les jeunes, donc on ne peut pas. » Et on a eu du mal à trouver un autre endroit pour pouvoir travailler. Donc je crois qu'il y a des espaces comme ça, en ouvrant un petit peu plus, qui seraient possibles et qui permettraient à la fois, au niveau matériel, avoir un accès pour des personnes qui n'ont pas cet argent-là, et à la fois aussi au niveau accès au contenu. Donc il y a des choses qui sont possibles, mais peut-être un petit peu plus de liens, un petit peu plus d'ouverture, de dialogue, pour que, parce qu'il y a toute une expertise du terrain qui est quand même là, et qui permettrait de construire des choses qui soient plus inclusives. Voilà.
Merci. On va encore écouter deux interventions à la pause. Ouais.
Bon, je suis moins à l'aise devant un micro que toi, Lionel, mais voilà. Deux petites choses, moi. Une assez pragmatique. Stéphane et Sylvie, enfin Stéphane relevait une petite phrase. J'ai relevé une petite phrase que Stéphane a dit, qui est je suis allée chez Sylvie, j'ai vu que c'était pas comme d'habitude. Pour moi, ça ne va pas de. Enfin, je pense qu'il faut le relever parce que ça ne va pas de soi pour monsieur, madame, tout le monde. On va chez les personnes, on est accueilli chez les personnes dans leur intimité. Ça demande quand même pas mal d'efforts de la part des personnes qui nous reçoivent. Ça demande du temps, parfois du trajet. Enfin, voilà, le TAS est en place en Deux-Liège et vous savez que les travaux. Donc le temps en minutes, on rajoute un peu quelques minutes dans ce fameux tableau. Hein, de 5 minutes, on passe à 30, 35 minutes. Enfin, ça a l'air de rien, mais voilà, c'est des petites choses que j'avais envie de relever. On n'est pas des bureaux et on reçoit. Enfin, on a un bureau, mais on ne reçoit pas spécialement les gens au bureau. On fait la démarche d'accompagner chez eux, dans leur milieu de vie. Je pense que c'est vraiment important de relever. Et un deuxième point qui, moi, me tient à cœur, c'est qu'une des spécificités aussi, je pense, des services d'accompagnement, c'est le travail de réseau. Donc, le réseau, c'est le tisser. Moi, je travaille à Sorin, au service d'accompagnement Les Chanterelles. C'est important de connaître le réseau sorésien pour pouvoir mieux accompagner les personnes dans ce qu'elles ont besoin. Et ce fameux machin numérique nous détricote ce réseau. En fait, on n'a plus de partenaires au téléphone. Donc, on doit recréer le réseau tout le temps. C'est aussi fatigant avec des gens dans les administrations qui font ce qu'elles peuvent, mais ce sont des pions. Hein. Donc on crée un lien avec un travailleur d'un CPAS, voilà. Et puis deux mois après, c'est plus la même personne. On doit recommencer. La personne qu'on accompagne doit relire tout son trajet. Donc voilà, ça prend aussi du temps, c'est fatigant. Et je pense que le travailleur se retrouve de plus en plus seul. Peut-être aussi que les burn-out, c'est difficile de donner du sens aussi quand même nous, travailleurs sociaux, qui ont. Et puis voilà, le réseau autour de la personne, on n'est pas présent 24 heures sur 24. Hein. Ça, c'est. et j'espère que jamais, je veux dire, la personne, on tisse autour d'elle un réseau qui va pouvoir l'aider quand nous, on n'est pas là. Quand, voilà, la personne doit être capable de pouvoir appeler son médecin, des choses très pragmatiques. Voilà, le week-end, ben, on n'est pas présent, c'est pas nous qu'elle va appeler, c'est le réseau. Donc, voilà, je pense qu'il y a aussi pas mal d'effets secondes, enfin, un peu. Voilà, les problèmes qui surgissent auxquels on ne pense pas spécialement. Donc voilà, moi je travaille dans un service d'accompagnement depuis 34 ans, donc j'ai vu cette évolution et je me retrouve ici, j'ai l'impression d'être là il y a 20 ans ou 30 ans avec les mêmes combats. Voilà, merci.
Ah, merci, on va encore écouter une dernière intervention.
Merci. Tout d'abord, je dois vous dire que je suis un poisson rouge. Je voulais plus sérieusement poser une question parce que je rencontre énormément de monde dans ma fonction politique. Je fais ce qu'on appelle des permanences sociales qui ont été souvent décriées parce que qualifiées de clientélisme. Mais je trouve que c'est hyper important de conserver ce contact avec la population pour justement être conscient des difficultés. Et on a évoqué un bon exemple avec Sylvie d'administrateur de biens. Je rencontre énormément de personnes qui ont des soucis de surendettement, qui ne connaissent pas nécessairement le handicap du tout. Et moi, mon expérience, mais j'aurais souhaité avoir un peu l'avis de tous les autres, c'est que les administrateurs de biens, c'est souvent excessivement catastrophique. Ils ne sont absolument pas formés. La plupart des avocats qui font ce suivi-là, pour moi, le font d'une manière inhumaine, catastrophique. Il n'y a pas de contact. On n'attache aucune importance aux besoins de la personne. C'était un exemple ou deux, peut-être, pour étayer mon propos. Personne, on paye régulièrement en retard sa facture de télévision et on coupe la télévision. Et la personne, au moment de la Coupe du Monde, doit aller voir la TV dans les cafés, prendre une bière parce qu'on lui dit si tu ne te consommes pas, tu ne peux pas rester. Et c'est tout le long du chemin des comportements ainsi, ou du style ah ben écoute, on n'a plus beaucoup d'argent, il faut te séparer de ton chien hein, parce que ton chien coûte cher, autant de vétérinaires, autant de nourriture, etc. Je pense que là, il y a un énorme effort à faire en termes d'accompagnement, de formation de ces personnes pour avoir un accompagnement adéquat. Mais peut-être que, voilà, j'ai une vue tronquée de la réalité. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je remarque.
Ça va, merci. Ben, je propose... C'est pas votre vécu, hein. Il faut pouvoir nuancer aussi. Ouais.
Il y en a qui font extrêmement bien leur travail. Après, il faut toujours garder une certaine vigilance. Mais je trouve que c'est un débat qui appelle de la violence et pas de la
violence. Moi, je sais qu'il y a une mon avocat, mais j'ai beaucoup de contacts. J'ai cru que c'était comme ça parce qu'on m'avait expliqué la même chose que nous. On m'avait dit ouais, mais tu mets pas sur un administrateur, ça profite de l'argent, et tic et tac. C'est vrai qu'il y a des administrateurs, c'est des cons. Et moi, j'ai un administrateur que toutes les années, on a le
décompte.
Le rapport de l'année, ouais. Et qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font.
Ouais.
Et il y a des administrateurs qui profitent bien l'argent des gens et qui profitent très, très, très bien. Mais moi, ce cas-là, je ne l'ai pas parce que j'ai beaucoup d'affinité avec mon avocat. J'ai eu pour ma Noël, l'année passée, j'ai eu que 200, cette année-ci, j'ai eu 400. Ouais. Alors voilà, tous les administrateurs ne sont pas les mêmes.
Non, mais.
Tout le monde est mis,
il est très mal. C'est qui m'a donné cet avocat-là. Ah, ben voilà. Ouais, bon, tout dernier mot, et puis après, on fait la pause, sinon, votre honneur.
Par rapport au travail avec les administrateurs de biens, ici on parlait du réseau, Florence, effectivement c'est un travail que l'on fait, donc on a quelque part aussi par expérience constitué secrètement un réseau d'administrateurs de biens avec qui on travaille, et avant d'y arriver aussi il y a ce travail de préparation dont je parlais tantôt, et donc une action concrète d'un service d'accompagnement ce n'est pas que parler, c'est pas de la parlotte. Ça veut dire aussi que nous prenons contact avec un administrateur de BA dont on estime qu'il peut être tout à fait adéquat avec la personne avec qui on travaille. Nous allons le rencontrer une première fois pour faire les présentations, je vais le dire comme ça, de telle sorte à ce qu'on puisse aussi, quand nous allons chez le juge de paix avec la personne, faire une proposition qui habituellement est acceptée. Donc c'est là aussi un travail de fond qui peut être réalisé, qui est réalisé par les services d'accompagnement et qui est vraiment au bénéfice de la personne et de son bien-être. On parle de bien-traitance. Tout ça, ce ne sont pas des mots romantiques. Ce n'est pas du romantisme. Chez nous, ça a une vraie valeur, ça a, ça a un caractère concret. Mmh. Donc, c'est du travail de fond, de longue haleine, de constitution de réseau, de rencontre. Et voilà. Donc,
oui, on sent que vous êtes là pour l'incarner, pour l'accompagner. Hein.
Voilà, tout à fait. On peut avoir des grands discours, mais ça a en sous-bassement. Et après ça, avant et après, il y a toujours des actions extrêmement concrètes au bénéfice de la personne. Et donc, au départ de situations qui peuvent être potentiellement négatives, effectivement, il y en a qui ne font pas bien leur travail, on en a fait autre chose.
Ça va, merci.
Peut-être en très court, et je peux revenir après dessus, mais simplement dire que peut-être derrière l'expression « administrateur de biens » ici, on généralise la diversité des métiers qui ont trait à la dette des ménages. Il y a bien sûr des administrateurs de biens, mais il y a des médiateurs de dette. Il y a des accompagnateurs de dette qui ne sont pas des médiateurs de dette judiciaire, mais qui s'instituent dans les CPS et à travers des services, etc., des gestionnaires du budget de la personne. Et en effet, dans toute cette palette-là, on voit du très bien. Et par ailleurs, il y a beaucoup plus souvent du très bien si les personnes sont très bien accompagnées. Donc on doit aussi se poser la question de savoir, est-ce qu'il est normal que les personnes soient très bien accompagnées pour être accueillies chez quelqu'un qui devrait bien accompagner ? Hein ? Donc il y a tout ça derrière. Donc je pense que la question, et à mon avis, derrière ce que Philippe Coire évoque, il y a la palette de tout ça qui fait partie grandement des réalités.
Ouais. Merci pour amener ces éléments de nuance. On va faire une pause maintenant. L'heure file. On se retrouve dans une quinzaine de minutes. Donc il est 11h10, quelque chose comme ça. Et on se retrouve à 11h25. Vous avez des espaces à l'étage pour pouvoir prendre le café. Et on commencera bien à 25. Dans le stade Vanille, on a mis 20 minutes. Dans 15 minutes, je commence à les rappeler pour commencer 5 minutes après. Merci. Ce sera